Radio Django. Culture.
Bonsoir Ségolène.
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous.
Dans Cultiver Lausanne, ce soir nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau l'une des librairies de Basta.
Oui, donc effectivement, Marie-Pierre nous présente ce soir ses deux coups de cœur du moment. Donc il s'agit de Sans Silk de l'écrivain fribourgeois Michel Laya et West de l'anglo-saxonne Carrie Davis. Deux nouveautés littéraires sortiront au début de cette année.
Et bien voilà qui est intéressant pour nous, hein, ça nous occupe ce soir. Commençons peut-être avec quelques mots sur l'auteur de Sainte Silke, paru aux éditions Zoé, c'est Colène.
Oui, donc né en 1963 à Fribourg. Les voyages qu'a effectué Michel Laya au début des années 90 dans le pourtour méditerranéen ont été une source d'inspiration pour son premier roman Quartier Terre. Il a ensuite publié un recueil de nouvelles, 13 romans, dont certains ont été gratifiés par des prix littéraires suisses et français. Notons également qu'entre 1988 et 2000, il dirige avec sa femme la galerie d'art L'Aparté à Lausanne. Donc, petit détail qui peut-être peut expliquer un peu la suite. Donc en quelques mots, Sans Silke, c'est l'histoire d'une petite fille appelée Ludivine, dont les parents, le père est artiste peintre, la mère avocate, vont faire appel à une répétitrice, Silke, jeune étudiante, afin de remédier aux difficultés scolaires de leur fille. Donc cette dernière va occuper un petit appartement au sein de la maison familiale. Et il faut dire que Silke, c'est la narratrice. Et puis, elle va être, durant ses répétitoires, elle va être un peu témoin des problèmes relationnels du couple, de ce couple qui semble, à première vue, très fusionnel, mais qui est très, très égocentrique et puis qui, en fait, va délaisser la petite Ludivine. Donc, à travers cette histoire, l'auteur s'interroge sur les ressorts du délaissement familial. Est-ce que c'est, on peut dire ça comme ça, Marie-Pierre ?
Oui, alors le délaissement familial et puis sous un angle assez particulier parce que c'est pas enfin, le couple est extrêmement fusionnel, effectivement, ils s'aiment énormément. Lui est artiste, un artiste raté. Enfin, il aspire à faire de grandes choses, mais vraisemblablement il n'y arrive pas. Il a un grand atelier. Dans leur villa, sa femme le soutient et plus que ça, presque l'aveugle en lui faisant croire qu'un jour il y arrivera. Et puis du coup, il y a absolument plus de place pour leur enfant, pour cette Ludivine. Et puis, du coup, ils vont faire appel à cette répétitrice, Silke, pour des prétendus manquements de leur fille qui serait endormie, dit sa mère. Et puis au fait, Silke va se rendre compte que non, pas du tout. Cette jeune fille, elle est très vive, elle est intelligente, elle est pertinente, elle est curieuse, elle est drôle, mais simplement, elle rentre pas dans la dynamique familiale. C'est pas possible, il n'y a pas de place pour elle. Et puis, le père l'ignore absolument et totalement. Il est absorbé par son art, mais il est absorbé par lui-même surtout. Et puis, sa mère essaye parfois de faire un peu de place à cet enfant. Mais en fait, sa mère, c'est une sorte d'image de la perfection. Elle est agaçante, elle est parfaitement agaçante, ou le contraire. C'est une avocate, elle parle extrêmement bien, c'est une très belle femme. Leur maison, qui s'appelle La Favorite d'ailleurs, ça c'est révélateur. Leur appartement est meublé avec goût, rien ne dépasse.
Tout c'est un peu cliché tout ça, non ?
Oui, mais ça marche très bien. Ça marche vraiment très bien. Et puis, en même temps, c'est cliché. Et puis non, parce que, on en connaît tous, des gens un peu comme ça, qui ont une maîtrise, qui voilà.
D'un point de vue extérieur,
exactement.
Une vie parfaite,
oui, mais en oui, fait, oui. Bon, mais souvent dans des romans, d'ailleurs, ça craque, mais ça craque dans le couple. C'est-à-dire qu'il y a une impression de perfection et puis finalement il y a des failles à l'intérieur du couple. Et puis là c'est pas ça. Il y a même pas de faille. Ils s'adorent réellement. Simplement la faille c'est que ils ont voulu avoir un enfant. C'est bien parce que c'est pas expliqué pourquoi. Parce qu'on se le demande hein, en tant que lecteur. On se dit mais enfin ils auraient pas dû quoi. C'était pas possible. Et puis non, ça fait pas cliché parce que finalement ces personnages ils sont très incarnés, ça marche bien. Et puis ce qui fonctionne très bien aussi, c'est la relation du coup de Ludivine avec Silke. Elles s'entendent tout de suite très bien. Silke, elle est étudiante à l'université, du coup juste sortie de l'adolescence. elle entre dans l'âge adulte, mais en même temps, elle s'entend très bien avec cette petite fille. Et puis, Silke, elle regarde. Elle a un regard déjà très pertinent. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que donc la narration se passe quand Silke a à peu près 40 ans, une vingtaine d'années après. Donc, elle a le recul pour parler de la situation de cette famille, pour voir un peu, pour avoir analysé. Et puis, elle est devenue photographe. Et c'est très bien thématisé tout au long du livre, comme ça. Tout à coup, c'est des scènes où elle regarde par une fenêtre. Ça fait comme un cadre, comme ça. Elle regarde par une fenêtre et puis elle voit les parents. Et puis la fille, qui justement rentre pas dans le cadre, enfin rentre pas bien. Où il y a une scène aussi où elle passe dans le salon et puis ils sont à table. Et ça fait comme un écran de cinéma. Elle passe là-devant, elle voit les personnages qui s'agitent, qui s'intègrent, qui ne s'intègrent pas. Cette Ludivine qui est hors cadre. Et ça, c'est très intéressant dans la thématique aussi, le regard sur tout ce qui est artistique, du coup. Le père artiste, Silke qui sera photographe. Et puis justement, qui, elle, en tant que photographe, elle aura un intérêt aux autres. Elle voyagera. Elle élargit son champ. Mmh. Alors que lui, il est prisonnier du sien. Il n'avance pas, il ne fait rien.
C'est un livre, donc, on l'a compris, une histoire qui tourne autour de la famille. On parle d'amour, on parle d'amitié. Qu'est-ce que l'auteur, là, Michel Layan, nous apprend sur l'amitié ?
Apprendre, je sais pas, mais c'est vraiment justement un bel instantané sur une amitié entre une tout juste adulte et puis une enfant, sur des liens qui sont presque immédiats comme ça, et puis sur l'acceptation de l'autre, justement de son côté un peu. Cet enfant, c'est une enfant, donc elle est foutraque, elle est curieuse, elle est imaginative, et puis sur l'impossibilité d'amitié, justement d'amour au sens large pour leur fille, mais d'amitié aussi. Ils sont extrêmement esseulés, eux on ne sont pas capables. Donc voilà, c'est une assez belle définition aussi du lien en général.
Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans ce roman, Marie-Pierre ?
C'était qu'en le lisant, et puis après lecture, justement, on se dit que c'est bien fait, c'est cohérent, plusieurs choses sont thématisées, justement, tout ce discours sur l'art, cet œil photographique, ce discours sur la peinture. C'est un texte qui est court, c'est assez incisif comme ça. Et très vite, on est pris dedans. Très vite, on est dans l'histoire. Très vite, on a l'impression de connaître les personnages. Et puis l'écriture est très belle, vraiment. Là aussi, il y a des alternances de phrases assez courtes et puis tout à coup un peu plus lyriques ou développées. Voilà, écriture magnifique et puis plein de choses intéressantes d'un texte qui nous reste après lecture, ce qui est déjà pas mal.
Oui, c'est déjà pas mal, effectivement. Sans Silke, un livre paru aux éditions Zoé de Michel Laya, qui est votre premier coup de cœur, Marie-Pierre. Dans un tout autre registre, on passe à West de Caris Davies, paru aux éditions du Seuil au tout début de l'année. Ségolène ?
Ouais, donc Caris Davies, c'est une écrivaine d'origine galloise, auteur de recueils de nouvelles. Mais West, c'est donc son premier roman. Donc pour en résumer encore une fois en deux, trois mots, donc l'histoire se déroule aux États-Unis en 1815, et suite à la lecture d'un fait divers, Si Bellman, en fait fermier veuf, confie sa fille de 10 ans Bess à sa tante pour partir à la recherche d'un fameux trésor. Donc pour l'homme, c'est l'occasion de sortir et de s'échapper d'une vie ennuyeuse en Pennsylvanie afin d'explorer de nouveaux lieux. Bess, donc sa fille, quant à elle, essayera de suivre le périple de son père à distance et de vivre en quelque sorte ses aventures par procuration. Marie-Pierre, certains critiques parlent de fable western. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces termes pour décrire ce roman ?
C'est strict.
C'est strict, oui. Alors, on va élargir un petit peu. Western, ouais, c'est facile, ça se passe aux États-Unis, puis pardon, l'Ouest. Mais...
Et les fermiers, en plus.
Pour le côté fable, oui, enfin, oui, mais... Alors oui, parce que c'est pas seulement une exploration d'un lieu, il part pas par... par curiosité géographique, on va dire ça comme ça. Il part parce qu'effectivement, il lit un article dans lequel on parle de d'ossements d'un animal vraisemblablement énorme qui ont été retrouvés. Alors quand on lit, nous, on s'aperçoit que ça doit être un mammouth. Apparemment, à l'époque, il ne savait pas exactement. Et puis, lui, il est changé et fasciné par cet article. Et c'est que c'est... ça relève plus du rêve ou de l'espérance, d'un autre chose. Comme partir solaire sur la Lune. Du coup, il part, il est sidéré par cet article, il part, il se dit que c'est pour lui. Pour le côté fable, parce que ça va virer vers quelque chose d'un peu allégorique, western. Voilà, si c'est juste parce que ça se passe aux États-Unis et qu'il part dans l'Ouest, alors peut-être. Il y a plein de thématiques, on va dire, peut-être du western, mais fait toujours sous des points de vue assez intéressants. Donc il part, il va rencontrer, d'abord il est seul, il y a une confrontation, un peu comme d'habitude, mais qui est très bien faite là aussi, dans la nature, parce que c'est une nature extrêmement préservée et qui est très très difficile. Ce à quoi il ne s'attendait pas vraiment. Et puis, justement, pour pouvoir un peu se repérer dans son chemin, il doit faire appel à un guide indien. Alors d'abord, l'Indien s'appelle Vieille Femme de Loin. Et puis, rien que pour avoir pu lire un livre où il y a un personnage qui s'appelle Vieille Femme de Loin, moi, j'étais heureuse. Et donc, il va rencontrer un trappeur français qui va lui présenter sa Vieille Femme de Loin. Il va partir avec. Et leur relation va être... en même temps très belle, pas naïve, pas archétypale. On va apprendre aussi plein de choses sur cet Indien, qui est un Indien Shawnee, qui a classique, là, a été déplacé, sa famille également. Il y a quelques phrases, mais qui nous apprennent plein de choses sur l'histoire de cette période des États-Unis. Des choses toutes bêtes. Par exemple, cet Indien, les Shawnee étaient agriculteurs. Ils nous parlent des champs, de ses maisons, etc. C'est pas du tout l'image d'Épinal qu'on a de l'Indien à plumes sur son cheval dans les plaines. Mm-hmm. Voilà. Ça nous apprend d'autres choses. Et puis, leurs relations sont vraiment très intéressantes. Et puis, le livre est bien construit. Les chapitres s'alternent entre lui, son voyage, qui est une espèce de voyage initiatique ou un voyage comme ça vers son rêve, et puis on alterne avec des chapitres où on nous parle de sa fille Bess, qui a donc été laissée avec sa tante, qui est pour le moins un personnage absolument pas sympathique, très, très strict, un peu acariâtre comme ça, assez dur. Autant le père Bellman et puis sa fille Bess ont des aspirations, autant la tante n'en a pas. Et puis il y aura ce mouvement comme ça, de Bess vers le début de l'âge adulte. Mm-hmm.
La thématique de la conquête de l'Est a été traitée de maintes reprises dans la littérature, surtout américaine. Qu'est-ce que, selon vous, ce roman a d'original en fait?
Bon, alors, c'est pas la thématique, donc il évite l'écueil du « attention, je vais vous faire un roman historique, vous allez apprendre plein de choses, vous allez voir ce que vous allez voir mm-hmm. ». Puis en même temps, en peu de phrases, on en apprend beaucoup. Justement, c'est jamais dans le cliché. Mm-hmm. La construction, de nouveau, originale, cette espèce d'alternance de chapitres, on sent vraiment que c'est une nouvelliste. Elle est très incisive. Les personnages sont incarnés comme ça, très vite, attachants très vite. Et puis, ça, le côté fable aussi en fait un conte comme ça, en fait quelque chose de... un objet assez particulier avec une fin qui est lyrique, en même temps très dure, en même temps très lyrique, vraiment magnifique, où le personnage indien aura une grande place et un grand rôle à jouer. Et j'ai lu pas mal d'ouvrages sur cette période, et puis celui-ci a amène autre chose.
Donc c'est votre deuxième coup de cœur de cette rentrée 2019?
Oh, j'en ai déjà eu plus encore depuis.
Mais que vous nous présentez ce soir. On rappelle donc ce dernier ouvrage West de Caris Davies aux éditions du Seuil, paru ce début d'année, et le premier dont on parlait tout à l'heure aux éditions Zoé de Michel Laya. Sans silquer, c'est vos deux coups de cœur, Marie-Pierre. Merci beaucoup d'être venue ce soir nous en parler.
Merci à vous.
Deux livres qu'on peut trouver évidemment chez vous, à la rue du Petit Rocher, dans le quartier de Chaudron à Lausanne, et puis sur le campus de l'Université de Lausanne. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Je rappelle que vous êtes libraire passionnée chez Basta. Une bonne soirée à vous.
Merci,
et puis, avant de partir, vous serez à l'écoute, bien sûr, demain de notre émission Voix de Plume.
Bien sûr.
Évidemment, merci. Puisque demain, nous recevons Lucienne Perry et Tania de Paola pour un livre et un spectacle qui sont tous les deux groupés. 19h demain, rendez-vous donc. Merci beaucoup. Un sujet qu'on peut retrouver et écouter sur notre site django.fm, et on remercie Ségolène pour la préparation de ce sujet. Une bonne soirée.
Merci, bonne soirée à tous.